Bienvenue dans Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin au micro, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel et qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Le musée Guimet se met à l'heure tibétaine à travers l'exposition Alexandra David-Neal, une aventurière au musée, visible jusqu'au 22 mai, mais aussi à travers des événements et des lectures qui font découvrir au public la culture tibétaine. Pays lointain et mystérieux, le Tibet n'a jamais cessé d'attiser les curiosités. Mais aujourd'hui, le Tibet vit une période difficile de crise identitaire et politique. On parle d'ailleurs de la question tibétaine régulièrement pour évoquer ce territoire si crucial pour la Chine qui veut à tout prix garder la main mise dessus. Province autonome, le Tibet se bat pour garder sa culture, son histoire, son patrimoine et bien sûr son écriture et sa littérature. Parmi les intellectuels d'importance qui comptent aujourd'hui et qui sont devenus des figures symboliques de la culture tibétaine se trouve Pema Tseden, écrivain et cinéaste dont le musée Guimet a choisi deux textes traduits en français aux éditions Piquier pour les faire découvrir au public. Je vous propose dans cette émission de rester à l'écoute, car les textes de littérature tibétaine ne sont pas si nombreux. Je vous invite donc à écouter des extraits de la nouvelle « Neige » lue par la comédienne Tania Torrens et des extraits de la nouvelle « Les dents d'Ourguiane » lue par le comédien Loïc Maubillan. En même temps que je rejoins dans cette émission les deux traductrices de ces textes, Françoise Robin et Brigitte Duzan, qui nous plongent toutes les deux dans l'univers du Tibet en digne héritière d'Alexandra David-Neal.
Neige. Si le terme « neige » désigne le phénomène hivernal, c'est également un prénom féminin. C'est en effet le nom de la petite fille que le berger Chopa trouva dans la neige une nuit, il y a 15 ans. Cette nuit-là, le berger Chopa avait rêvé d'une femme qui disait être son épouse. Un nourrisson contre son sein, elle avançait en titubant sous la neige qui tombait à gros flocons. Dans l'espace de vacuité de son rêve, la lune d'une blancheur éclatante montait dans l'orbe du ciel, tandis qu'une neige d'un blanc éclatant couvrait tout le paysage nimbé d'un pâle reflet. Une parfaite sérénité régnait sur les quatre orients, mais les pleurs d'un nouveau-né se faisaient entendre sans répit dans l'espace de vacuité de son rêve. Le berger Chopa se réveilla et secoua énergiquement la tête à plusieurs reprises, se demandant s'il n'avait pas été le jouet d'une illusion, mais les pleurs résonnaient sans cesse à ses oreilles. Il eut un petit rire intérieur, car l'image onirique de son épouse et de l'enfant continuait à lui apparaître distinctement. C'était vraiment un mystère. Lui, qui n'avait pas encore atteint 15 ans. Il ne se préoccupait ni de foyer, ni d'épouse. Qui plus est, la femme et le nourrisson vus en rêve lui étaient totalement inconnus. Les pleurs continuaient. Quand il sortit de sa tente, il fut surpris. Il avait bel et bien neigé. Les yeux des constellations célestes clignaient sans cesse et la lune, d'une blanche clarté, parait ce paysage enneigé d'une beauté inédite, captivant irrésistiblement le berger Chopa. Après une brève réflexion, il se dirigea rapidement vers l'endroit d'où provenaient les pleurs de l'enfant. Il vit quelque chose scintiller dans la neige, à une certaine distance de lui, et la crainte le fit s'arrêter. Il lui fallut quelque temps pour reprendre courage et repartir en direction de la chose. Ça alors, c'était un enfant. un nourrisson tout juste né, au corps aussi blanc que neige qui irradiait sous les rayons de la lune. Le berger se pencha et regarda. C'était exactement l'enfant que son épouse onirique avait tenu contre son sein.
Les dents d'Oriane de Pema Tseden, lu par Loïc Mobillon.
Les dents d'Ourguiane. Ourguiane était mon camarade de classe à l'école primaire. C'est une chose bien connue. Il a ensuite été reconnu comme lama réincarné. C'est aussi une chose bien connue. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Ourguiane est mort à 20 ans. On a alors beaucoup parlé de sa mort pour dire que, dans le cas d'un lama réincarné, on ne peut pas parler simplement de mort, mais de parinirvana, c'est-à-dire la complète extinction. Néanmoins, Ourguiane et moi avons été camarades de classe pendant les 5 années du primaire, camarades de jeu et même voisins de table. Nous étions sensiblement du même âge. Alors, quand il est mort, j'ai vraiment eu du mal à dire qu'il avait atteint le parinirvana. Mais tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas parler de mort, et mon père en particulier a bien insisté là-dessus. Il a dit que si je parlais de mort, c'était manquer de respect envers un être bien plus éclairé et bien plus proche de l'éveil que moi. Après cela, je ne l'ai donc plus dit. Ourguiane a été bien plus proche de l'éveil que moi. Je l'admets volontiers maintenant, car une fois qu'il a été reconnu comme lama réincarné, beaucoup de gens l'ont vénéré. Un jour, mes parents m'ont emmené le voir pour que je me prosterne devant lui. Honnêtement, je n'en avais pas très envie. Lui, de son côté, m'a dit en riant au milieu de la foule que je n'étais pas forcé de le faire. Mais mes parents n'étaient pas d'accord et m'ont fermement enjoint de me prosterner. Comme j'hésitais, ils ont ajouté d'un air ironique que je pensais peut-être que, parce que j'avais été camarade de classe du lama réincarné, il n'y avait pas de différence entre nous et donc que je n'avais pas besoin de me prosterner. Je n'ai pas pu répondre. Il y avait tellement de gens qui faisaient la queue derrière nous. Il a bien fallu que je me prosterne 3 fois devant lui. Il ne m'en a pas empêché. Il m'a juste regardé d'un air rieur. Sur le moment, je n'ai pas été très content. Mais en y repensant par la suite, j'ai reconnu qu'il était bien plus proche de l'éveil. Et je me suis alors prosterné, sans réserve. Il n'y aurait pas de raison autrement pour que ce soit moi qui me prosterne devant lui et pas l'inverse. Il faut bien le reconnaître, c'est aussi simple que cela. En revanche, qu'il ait été bien plus éclairé que moi, ça, c'est une autre histoire.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'Art District dans l'émission Art Interview. Nous sommes au Musée Guimet aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être avec Françoise Robin. Vous êtes donc professeure des universités, spécialiste des langues, littérature et culture tibétaine, également responsable des enseignements Tibet à l'INALCO. Bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui.
Bonjour.
Et également à côté de vous, donc Brigitte Duzan, vous êtes linguiste, traductrice du chinois, et donc vous êtes également une spécialiste de la Chine. Donc je suis avec vous aujourd'hui parce qu'on vient d'assister à une lecture très intéressante, donc organisée par le Musée Guimet. On a entendu 2 comédiens lire 2 nouvelles de Pema Tseden, qui est un auteur romancier et également cinéaste tibétain. Ces 2 nouvelles, l'une s'intitulant « Neige », écrite donc en tibétain par Pema Tseden. La seconde, « Les dents d'Ourguiane », elle écrite en chinois. Donc justement, toutes les deux, vous êtes les traductrices de ce recueil de nouvelles de Pema Tseden, qui est un des rares auteurs tibétains traduits en langue française. Pema Tseden, juste pour justement le resituer pour les auditeurs, alors il est connu surtout pour son activité cinématographique aujourd'hui, mais c'est aussi un romancier, un auteur de langue donc tibétaine et chinoise. Françoise Robin, vous pouvez peut-être commencer pour nous présenter cette figure qui est quand même symboliquement intéressante aujourd'hui dans le monde qu'on vit, dans le monde que vit le Tibet aujourd'hui d'ailleurs, qui est en souffrance. Hein. Être un auteur de littérature tibétaine aujourd'hui, c'est assez difficile.
Alors Pema Tseden est effectivement est tibétain. Il a la particularité d'écrire en tibétain et en chinois, et en plus d'avoir une activité de cinéaste depuis 2004. Donc c'est un personnage assez typique d'une certaine génération. Il est né en 1969. Il est assez typique en ce qu'il a commencé sa carrière d'intellectuel d'abord par l'écriture en tibétain, puisque c'était un peu la seule voie, disons, artistique qui pouvait être proposée aux Tibétains qui maniaient bien la langue tibétaine et qui souhaitaient faire vivre leur langue à travers leur écriture, en découvrant des formes littéraires que les Tibétains n'avaient jamais pratiquées, comme vous avez dit, les romans. Si en fait il n'a pas écrit de romans, il a écrit des nouvelles. Il n'a jamais écrit de poésie, qui est un genre très prisé par les Tibétains. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours écrit de la fiction, qui a commencé à écrire dans les années 90. Surtout, il s'est démarqué parce que il a dit par la suite que son rêve, en réalité, ça aurait été de faire du cinéma, mais que en tant que Tibétain né à son époque, le cinéma n'était même pas une option. C'était inimaginable. Il n'avait jamais envisagé pouvoir faire un film de toute sa vie. Il n'avait pas de cinéaste tibétain. Il fallait tout inventer. Et Pema Tseden est quelque part quelqu'un, le Tibétain, qui a vraiment élaboré ce projet de cinéma tibétain pour les Tibétains, qui a rendu le cinéma possible pour les Tibétains. Voilà.
Et qui est d'ailleurs en train, vous l'avez précisé tout à l'heure, de créer une sorte d'école de cinéma autour de lui, où il implique des Tibétains.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive à naviguer dans un système extrêmement délicat, hein, pour ne pas dire...
Pour préciser qu'il vit à Pékin.
Alors, il vit à Pékin, il navigue entre sa région d'origine, qui est donc le Tibet du Nord-Est, ce qui s'appelle en chinois la province du Qinghai, que les Tibétains appellent l'Amdo. Donc tout ça, le Tibet ayant été repris en main, occupé par la Chine, hein, les toponymes ont changé, mais il est donc issu du monde tibétain, à 2000 km de Pékin, donc il fait des allers-retours, son domicile est à Pékin, parce que le cinéma actuellement en Chine se fait beaucoup à Pékin, mais il est en train de développer effectivement un pôle cinéma dans sa région d'origine, en espérant que ça va créer une dynamique cinématographique plus tibétaine. Et il est peut-être le Tibétain le plus connu à l'extérieur du Tibet, qui vit à travers la langue tibétaine et qui n'a pas reçu de soutien, disons, qui n'est pas une émanation du gouvernement, qui n'est pas une création du gouvernement chinois pour dire « Regardez, tout va bien, les Tibétains sont très heureux puisqu'ils font des films et qu'ils écrivent des livres. » On a eu ce cas avec disons, avec des écrivains tibétains d'expression chinoise, parce que depuis que le Tibet a été incorporé dans la violence, hein, à la Chine dans les années 50, certaines franges de l'élite tibétaine se mettent à écrire en chinois et formé en chinois.
Oui, alors il faut peut-être préciser qu'il y a eu cette révolution culturelle.
Oui, mais bien avant la révolution culturelle, il y a eu dans les années 50, en 49, création de la République populaire de Chine avec Mao Zedong à sa tête, qui déclare que le Tibet fait partie de la Chine et qui entreprend de récupérer le Tibet. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit pendant la conférence, c'est que la zone tibétaine actuellement République populaire de Chine, c'est un quart du territoire chinois. C'est absolument immense. Donc c'est très compliqué pour la Chine, bien sûr, de se défaire de ce morceau de territoire, qui est plus qu'un morceau. Donc, dans les années 50, les armées chinoises sont arrivées, ont décrété qu'on était en République populaire de Chine et qu'il fallait libérer le Tibet. Et ça ne s'est pas passé tout seul, parce que les Tibétains avaient beaucoup bien d'autres projets, n'avaient aucun sentiment d'appartenance à la Chine. Bon, le déséquilibre des forces en présence a fait que ça a été vite plié. Il y a eu, bien sûr, beaucoup de morts. Les élites ont été quand même bien très très mise à mal. Beaucoup de personnes sont mortes en prison, dans les goulags, qui ont commencé à voir le jour à la fin des années 50. 10 ans plus tard, révolution culturelle. Bon, donc c'est vraiment une civilisation très malmenée, dont a émergé Pema Tseten.
Pema Tseten est issue en fait d'une génération juste post-révolution culturelle, c'est ce que vous avez expliqué.
Oui, qui est née pendant la révolution culturelle, mais effectivement,
qui grandit
après la révolution culturelle et qui apprend les deux langues.
Du chinois et le tibétain.
Voilà, qui est un des rares écrivains qui arrive à être vraiment performant sur les deux langues. En général, c'est soit l'une, soit l'autre, mais c'est rarement les deux. Et qui va se ménager une place en tant qu'on peut dire artiste autonome, indépendant vis-à-vis de l'État. Par exemple, ses films ne sont pas produits avec de l'argent public, hein, donc il cherche des sponsors privés, des producteurs privés. La Chine devient un pays très riche, donc on pourrait penser que c'est simple, mais je suppose qu'en tant que cinéaste tibétain, au début, c'était pas très simple d'approcher ces milieux du cinéma qui sont souvent, même en France, c'est un monde à part. Hein, donc évidemment, le milieu du cinéma en Chine, il a réussi à faire son trou dans ce milieu-là, et il arrive à maintenir une image, je trouve, tout à fait digne et sans beaucoup de compromissions de ce qu'est être un Tibétain aujourd'hui en Chine, bien évidemment en restant dans les limites.
Cependant, les Tibétains en Chine souffrent encore beaucoup d'être Tibétains. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu qu'il avait eu maille à partir avec la police chinoise. Il a été arrêté.
Alors, le fait que les Tibétains souffrent d'être en Chine, c'est parce que leur civilisation, dont ils sont extrêmement fiers et dont ils ont une très haute conscience, est ignorée, voire méprisée, et ne trouve pas sa place dans un fonctionnement social actuel. C'est-à-dire que quand vous écrivez un courrier, il est hors de question de l'écrire sur l'enveloppe en tibétain. Quand vous allez à l'école, vous êtes obligé de faire du chinois. En plus, vous allez dans les magasins, il n'y a pas d'endroit où le tibétain, la langue tibétaine, qui est leur langue depuis 1500 ans, écrite, hein, serait la seule langue utilisée. Hein. Donc tout est en bilingue, avec une très forte valorisation du chinois. Donc il y a un problème, bien sûr, pour les Tibétains de reconnaissance de leur langue maternelle. Sans parler qu'on est dans un régime très autoritaires qui n'acceptent pas que la population dise non. Hein. Donc voilà, c'est double problème, hein. Régime autoritaire et puis minorité ethnique considérée comme très problématique. Donc on a cette double difficulté d'être tibétain et Pema Tseten, malgré tout, arrive à créer, à être écouté, à être regardé. Et son film, son dernier film Tarlo, en Chine, a fait 3 millions d'entrées. Oui. Ce qui est, alors, à l'échelle de la Chine, j'ai calculé, hein, si, parce qu'ils sont quand même 1,4 milliard, donc
il faut ramener,
ça ferait 200 000 entrées,
Dans les conditions actuelles, où les petits films, les films qui sont produits hors des grands studios d'État, ce genre de petits films a déjà énormément de mal à avoir accès aux salles de cinéma. Donc déjà avoir pu sortir, c'est déjà un tour de force d'avoir imposé, et avoir 3 millions d'entrées, c'est très très bien.
Et alors, est-ce qu'il est lu aussi?
Je voulais juste répondre. Il a eu maille à partir, effectivement, avec la police.
Un problème local.
Je pense qu'il ne faut pas oublier la souffrance des Tibétains, mais là, je ne pense pas qu'il faille ethniciser le problème.
Je disais ça parce qu'en fait, c'est quand on tape Pema Tseten dans Google,
On a eu peur.
Hein, vous le repréciser.
Sur le moment, on se demandait bien ce qu'elle allait lui arriver.
Quand on ne connaît pas Pema Tseten et qu'on regarde un public qui n'est pas connaisseur et qui regarde juste la biographie de Pema Tseten sur Wikipédia, voit ça d'emblée. Donc c'est bien de repréciser les conditions dans lesquelles ça s'est passé.
Le fait qu'on ait eu peur prouve que ce sont des choses tout à fait possibles. Or, il s'avère qu'en l'occurrence, pour cet incident-là, je ne pense pas qu'on ait fait payer à Pema Tseten le fait qu'il ait été tibétain ou qu'il ait été qui il était. On n'a pas complètement eu le fin mot de l'histoire, mais il peut à nouveau reprendre ses activités. Il n'y en aura peut-être pas. Mais il a repris ses activités. Enfin non, il est à Lhasa, parce qu'il a présenté son film aussi à Lhasa. Enfin bon, il a réussi à circuler. Voilà, c'est ce que je voulais préciser.
Alors, on retourne peut-être justement à la littérature à proprement dite, puisqu'on est là aussi pour parler de littérature tibétaine et que vous êtes toutes les deux traductrices. Donc, des nouvelles de Pema Tseten. Est-ce qu'il est lu beaucoup, Pema Tseten? Et où?
En France, il commence à être connu grâce au livre, parce que finalement, il a eu pas mal de lecteurs, ce livre, et même ceux qui l'ont pas lu connaissent.
D'accord. Donc, oui. Le fait qu'il paraisse en poche est une bonne indication de son succès. On ne fait paraître en poche en général que les livres qui ont eu du succès en grand format ou pour lesquels une nouvelle publication apparaît en grand format. Et là, c'est l'occasion de publier un deuxième livre grand format avec un format poche pour un même écrivain. Or, il n'y a pas eu de deuxième livre de Pema Tseten. Donc, c'est une indication de tirage, de vente satisfaisante.
Tout à fait, ça correspondait.
Chez Piquet Poche.
Chez Piquet. Et ça correspondait tout à fait, d'ailleurs, à ce que Philippe Piquet avait imaginé dans sa tête au début, donc c'est bien.
Donc ça fait aussi connaître une certaine culture tibétaine à l'étranger, en dehors du Tibet. Combien il y a d'auteurs tibétains globalement un peu reconnus
Alors,
actuel, hein, je précise.
Oui, actuel. Alors, il faut savoir que la tradition bouddhique tibétaine est très très ancienne et suscite énormément d'intérêt en Occident. Donc
Et en Chine aussi. Il y a de plus en plus de bouddhistes, de chinois, Han, qui sont bouddhistes tibétains. Oui. Donc c'est intéressant. Et parmi les élites intellectuelles.
Oui. Alors c'est vrai que le Tibet fait un peu rêver dans l'imaginaire occidental, enfin d'un point de vue occidental, puisque c'est les moines, le bouddhisme. On a aussi cette exposition à Alexandra David-Neal qui exprime cette fascination pour le Tibet. Elle est allée à Lhasa.
Il faut lire aussi.
Alors justement, juste pour parler un tout petit peu de cette exposition et du personnage d'Alexandra David-Neal, quel rôle elle a eu selon vous, disons un rôle de messagère d'une certaine culture tibétaine? Est-ce qu'elle a fait connaître un peu tibétaine
complètement,
au monde occidental?
Au monde français, complètement. Elle a été la première femme occidentale à arriver à Lhasa en 1924. Et puis elle parlait le tibétain, elle l'écrivait.
Elle parlait le tibétain.
Voilà. Donc en fait, c'est grâce à cela.
Elle est son héritière.
Pas la seule. Mais elle n'a pas eu de carrière universitaire, ceci dit. Elle est restée dans une sorte de vulgarisation. Enfin, elle s'est adressée au grand public, exploratrice. Et puis effectivement, vulgarisation, au sens noble du terme, de mise à disposition d'un public. D'un grand public, d'un fonds culturel quand même assez singulier, assez étrange.
Quel texte elle a fait connaître?
Alors elle n'est pas connue pour... Elle est connue pour avoir fait connaître un épisode, disons un résumé de cette fameuse grande épopée de Guessard dont les Tibétains sont très fiers, qui est la grande épopée énorme, complètement démesurée, qui écrite en tibétain autour de ce roi Guessard, semi-légendaire et qui a des plus de presque de 200 épisodes qui eux-mêmes un épisode ça correspond à une narration par un barde qui peut durer 3-4 jours de suite, qui peut donner lieu à un livre de 450 pages ou 500 pages. Donc voilà, c'est un gros corpus énorme, très très foisonnant, et elle en a extrait une sorte de version résumée. Et puis ça a fait connaître La vie surhumaine, s'appelle La vie surhumaine de Guessard de Ling. C'est un livre qui est toujours disponible chez Pocket, et elle a réussi à faire connaître ça au monde occidental. Alors ça n'est pas une traduction du tibétain, mais au moins elle a ancré l'existence de ce fameux Guessard dans l'imaginaire occidental autour du Tibet.
Guessard. C'est un roi qui a existé ou c'est une mythologie tibétaine
C'est compliqué. Les Tibétains aimeraient bien nous dire qu'il a vraiment existé. Ils savent dire où il a existé, à peu près quand. Mais bon, les traces qu'on a dans l'historiographie, les Tibétains ont beaucoup écrit sur leur propre histoire depuis 1400 ans. Si on regarde les ouvrages qui ont été écrits à cette époque dans cette région, on a peu de traces d'un personnage historique qui se serait appelé Guessard. Donc on peut penser que ça a été magnifié par, peut-être comme Alexandre le Grand, qui lui est historique, mais imaginez un petit roi dont on aurait connu les exploits et qui se serait amplifié, qui aurait en fait rassemblé toutes les qualités qu'on projette sur un leader, sur un conquérant, et puis on aurait attribué tout ça à une même personne qui s'appelle Guessard, et les Tibétains qui sont dans les pâturages, je pense que ça leur parle, un personnage comme ça, à cheval, avec ses héros et ses guerriers qui va conquérir le monde entier, ça plaisait beaucoup. Même si c'était un pays bouddhiste, c'est toujours un pays où on pratique le bouddhisme tibétain, il y a toute une population, une frange de la population qui n'est pas dans les ordres, et où la démonstration de la force, de la valeur, de la bravoure veut dire quelque chose. Donc Guessard, c'est un héros auquel on peut s'identifier.
Oui, tibétaine. Alors justement, vous avez précisé tout à l'heure dans la conférence que vous avez donnée que le tibétain est une des rares langues dans le monde qui est utilisée depuis plus de 1000 ans. Donc évidemment, c'est important de pouvoir faire que cette langue existe toujours, hein, puisque c'est aussi la langue, on le sait, la littérature dans tous les pays, c'est aussi l'identité d'un peuple. Et Pema Tseden, lui, alors il est plus du tout dans cette littérature ancienne des monastères. Vous avez bien expliqué qu'il y a ce Tibétain très lié à la religion, aux textes religieux, à la vie monastique, et que finalement tout ce qui est littérature plus profane n'existe au Tibet que depuis, alors c'est peut-être une caricature, vous allez nous préciser, à peu près les années 1980, où il y a vraiment cette volonté de raconter des histoires de la vie quotidienne.
En fait, c'est l'écriture qui existe depuis plus de 1000 ans. Hein. La langue a bien évidemment évolué sur plus de 1000 ans, mais l'écriture, on peut lire des textes du 8e siècle en tibétain sans aucun problème. Donc c'est une écriture qui a une longue durée, qui a peu bougé, qui est donc difficile à lire, même pour quelqu'un qui parle très bien tibétain, être confronté. Il y a une sorte de diglossie, la littérature, l'écriture a peu bougé depuis peut-être le 14e siècle. Elle est écrite, le tibétain est écrit depuis le 7e siècle. Mais la forme littéraire a peu bougé, alors que la langue parlée a beaucoup bougé. Donc il y a un problème de diglossie. On peut très bien parler tibétain, mais si on n'a pas les codes pour comprendre ces littératures, c'est comme lire du Rabelais, hein, c'est un peu difficile en 2017. Donc ça, c'est pour la situation des Tibétains. Donc ils ont cet ancrage, hein, très très long, une sorte d'histoire à laquelle ils s'adossent, histoire littéraire. Mais effectivement, qui n'a pas servi pendant longtemps pour écrire de la... comme vous dites, de la littérature profane, ou très peu. Hein, je parle de Guessard, mais Guessard, il y avait quand même un substrat religieux assez important. Donc, la littérature profane, roman, fiction, réaliste, on va dire, en gros, c'est le réalisme, hein, est arrivée, c'est-à-dire des préoccupations mondaines, qui ne sont pas des préoccupations transcendantales, d'atteinte de l'éveil, donc qui sont des préoccupations dans le monde, ça arrive avec l'occupation chinoise, donc à partir des années 50. Disons que des modèles arrivent, mais comme l'a dit Brigitte, le temps était trop court pour que les Tibétains se mettent à ce type de littérature, parce que très vite, les choses se sont très très mal déroulées pour les Tibétains et en Chine en général, et donc pendant 20 ans, il n'y a plus rien eu du tout, et c'est au sortir de la révolution culturelle que les Tibétains, cette jeune génération dont Pema est un exemple tout à fait typique, ont trouvé là un outil qui les inspirait, parce qu'ils n'étaient pas religieux, c'était des jeunes gens laïcs, ils avaient 14-15 ans, et il leur fallait pouvoir trouver une expression littéraire qu'ils avaient du mal à dénicher dans la littérature de leurs ancêtres, en fait. Or, la littérature chinoise proposait des modèles, via souvent la Chine, mais c'était aussi la littérature occidentale, hein, la fiction, qui ont proposé des modèles qui leur ont parlé, qui étaient possibles, qui étaient même encouragés. Et ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans les années 50, en fait, les élites tibétaines qui ont été cooptées de gré ou de force par le régime chinois pour essayer de faire la transition, c'était souvent des moines très éduqués. Et ces moines ont essayé d'adapter, c'est très intéressant ce qu'ils écrivent, c'est un peu pathétique, les pauvres, ils ont essayé d'adapter des modèles littéraires tibétains, notamment de la poétique lyrique, la poétique savante extrêmement codifiée que les Tibétains pratiquent depuis 700 ans sur un modèle sanskrit, ils ont essayé d'appliquer un fond communiste. Et donc vous tombez sur des quatrains qui correspondent à des modèles tout à fait archétypaux de telle figure d'assonance, etc. Donc que les Tibétains pratiquent depuis 700 ans avec une grande délicatesse, mais appliqués à Mao Tse-tung, appliqués à la modernisation, aux projets socialistes, aux avions, aux progrès technologiques. On les sent un peu gênés, c'est-à-dire qu'il faut créer de la littérature, ils ne savent pas trop comment, donc ils vont garder leur modèle formel, et puis dedans ils vont injecter la bonne parole communiste, dont on ne sait pas trop s'ils y croient ou pas, mais enfin, il n'y avait pas trop le choix dans les années 50. Bon, ces gens-là, cette vieille garde, en fait, formée dans les années 20, 30, 40, et qui est cooptée par le Parti communiste chinois pour pouvoir traduire les textes de Mao Tse-tung, pour pouvoir traduire Marx en tibétain. Personne n'avait jamais lu Marx, quasiment. Donc, il a fallu prendre qui ? Ben, les élites. Les élites, c'était toujours des religieux. Donc, les pauvres, ils ont essayé de trouver une nouvelle forme littéraire. Bon, enfin, c'est pas totalement réussi. Tout ça, ça s'arrête complètement. On voit que c'est bon dans les années 50. Après, de toute manière, ils sont quasiment tous ou morts ou en prison à partir de 58-59. Et quand on sort de la période sombre révolution culturelle, c'est-à-dire 66-76, et quand on émerge de cette période sombre, eh bien cette élite a dû laisser la place à une nouvelle élite, celle dont est issue Pema Tseten, qui n'est plus religieuse et qui va plus pouvoir aller piocher dans ses anciens modèles et qui va plutôt se tourner vers les modèles qui leur parviennent via le chinois. Et ça va être donc cette fameuse littérature. Donc il y a deux grandes inventions, hein, disons, inventions, innovations. C'est la nouvelle réaliste, 79. Semble-t-il, la première nouvelle réaliste, c'est en tibétain, c'est d'ailleurs sur un barde, torturé pendant la révolution culturelle, donc ça s'est écrit en 79, en tibétain, publié dans un journal tout à fait officiel. En 85, le premier roman, et entre les deux, en 83, vous avez le premier poésie en vers libre tibétain. Donc il est l'enfant de ces années 80 qui ont tout inventé d'un point de vue littéraire moderne.
Les Dents d'Oriane, de Pema Tseden, lu par Loïc Maubillan.
On a été dans la même classe pendant 5 ans, à l'école primaire. Et jusqu'à la dernière année, je n'ai pas vraiment compris ce dont il retournait. Pendant ces 5 années, je dois reconnaître qu'il n'a jamais eu une seule mauvaise note en maths. Mais c'est parce qu'il copiait sur moi. Ah, c'est peut-être difficile à croire. Si quelqu'un d'autre le disait, je ne le croirais certainement pas moi-même. Mais c'est pourtant vrai. Je peux le jurer sur les 3 joyaux. Quand le maître nous donnait des devoirs, il attendait juste que j'aie terminé le mien sans même aller jouer. Ça, je l'appréciais, parce que s'il était allé jouer tout seul, je n'aurais peut-être pas eu le cœur de terminer le travail. Par la suite, en y réfléchissant, je pense que j'ai compris. C'était intelligent de sa part. Si je n'avais pas terminé, il n'aurait pas pu terminer non plus. Quand il copiait mes devoirs, en revanche, il le faisait très soigneusement. Il ne voulait pas que je me sente obligé de rester à côté de lui. Dès que j'avais terminé mon travail, je pouvais me précipiter dehors pour aller jouer avec d'autres copains. Il copiait, très soigneusement, je dirais même méticuleusement. Une fois, la maîtresse l'a même félicité pour avoir rendu une copie aussi bien présentée. Ce jour-là, honnêtement, je n'ai pas été très content.
Neige, de Pema Tseden, lu par Tania Torrens.
Neige fixait, hébétée, la fille qui interprétait cette chanson sur la scène. Son chant mélodieux le captivait, il avait les yeux embués de larmes. Il lui fallut du temps pour prendre conscience des applaudissements autour de lui. Sa chanson finie, la jeune fille descendit de la scène que Neige continua à fixer malgré tout. Voyant cela, son camarade de classe, Paljor, qui se trouvait à ses côtés, lui demanda à voix basse et d'un ton perplexe « Neige, qu'est-ce qui t'arrive ?» Neige, troublée, sembla se réveiller à l'instant et il répondit « Rien, rien. La chanson que l'on vient d'entendre m'a ramené dans ma lointaine terre natale. Comment s'appelle cette fille ?» Neige, elle aussi. C'est une nouvelle qui est arrivée cette année à l'école. Au début, je n'ai pas fait très attention, mais maintenant que je vous compare tous les deux, hormis le fait que c'est une fille et que toi, tu es un garçon, vous avez exactement la même allure et la même taille. Tout le monde parle d'elle en ce moment. On raconte qu'elle est blanche comme la neige. Des copains de classe prétendent même que son corps est transparent comme le cristal.
Alors, justement, Pema Tseden, lui, quel message il fait passer dans ses nouvelles ? On va plutôt parler des deux nouvelles qu'on a entendues lire aujourd'hui. Donc, en fait, il y a cette première nouvelle qui s'appelle Neige et qu'il a écrite en tibétain. Et ensuite, avec vous, Brigitte Duzan, on parlera peut-être des Dents d'Oriane, écrite en chinois. Est-ce qu'il y a un message particulier que fait passer Pema Tseden là-dedans ? Il décrit quand même le Tibet qu'il aime, en tout cas les montagnes dont il est issu.
Oui, alors c'est vrai que je pense que c'est une nouvelle que moi-même j'ai beaucoup de mal à interpréter. qui est assez mystérieuse, mais je crois qu'elle se veut assez mystérieuse. Elle est imprégnée de réalisme magique qui est donc typique, hein, Gabriel Garcia Marquez. Hein, il y a eu la fièvre Marquez, donc les années 80.
Une espèce de tarte à la crème à la fin, tout le monde écrivait comme ça.
Voilà, donc dans les années 80 qui a explosé en Chine, les Tibétains se le sont approprié un peu plus tard. Donc je pense que ça a inspiré Pema Tseten via un autre écrivain tibétain, lui, d'expression chinoise, qui a tout de suite cru voir que le monde tibétain...
Il a vu la correspondance entre le réalisme sud-américain et puis l'espèce du mythoréalisme tibétain, en fait. Donc, ils ont fait un amalgame. Et ça a plus ou moins bien pris sous différentes plumes.
Donc, voilà, Pema Tseten s'inspire, à mon avis, de ça.
À mon avis, oui, c'est un essai stylistique plutôt que transmettre un message. C'est-à-dire, si je veux écrire comme ça, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un essai de style magico-réaliste, sans que ce soit vraiment ça. C'est pour ça que c'est déjà personnel.
Oui, mais c'est original, ce qui est une marque de fabrique de Pema Tseten, je trouve.
Tout ce qu'il écrit, c'est
Autant...
On retrouve des schémas, mais chez lui, ils sont jamais schématiques. Il les dépasse très vite.
Et puis, il y a toujours une petite, là où vous vous attendez à quelque chose, eh bien non, il va prendre le chemin de traverse où il va justement aller à l'encontre.
Il y a des petites digressions sur le caractère d'un personnage, sur
des surprises, pas du tout ce que vous attendiez. Donc une forte personnalité certainement à l'œuvre. Donc je n'arrive pas à assigner un message.
Je crois qu'il ne faut pas chez lui chercher des messages. Je ne pense pas que son but ultime, c'est de faire passer un message. Ce qu'il veut, c'est, il le dit.
Il n'y a pas de militantisme sous-jacent.
Il n'y a pas un militantisme. Il fait passer des messages. Autant, il y en a aussi dans ses films, mais c'est pas son but premier, je pense pas.
Non, parce que de toute manière, il faut être un écrivain très très doué pour, d'abord, très audacieux et très doué pour arriver à faire du militantisme qui marche. Parce que l'écriture seulement militante, d'abord, elle est peu possible. Hein, très très vite, ça se finit mal.
On atteint vite les limites.
Et puis c'est vite dangereux. Et puis Mazzetta est plus fin que ça, et dans ses films on le voit aussi, c'est-à-dire qu'il lance des pistes, il lance des perches, et puis vous comprenez si vous voulez, et puis si vous ne comprenez pas. Et ce sera très bien la manière dont vous appropriez une œuvre, c'est parfait, ça lui va très bien aussi. Donc il laisse une grande marge de liberté au spectateur, je trouve. Et ce qui permet aussi de ne pas trop forcer le trait. Et effectivement, il ne faut pas... Les Tibétains sont en souffrance généralisée, je répète, mais il ne faut pas surpolitiser toujours les écrits, ni aller toujours chercher. Ils ont aussi le droit d'écrire de la littérature pour la littérature, si ce sont des écrivains.
Alors est-ce qu'il y a une sorte d'autobiographie? Parce qu'ils parlent souvent de jeunes, d'enfance, enfin dans les deux nouvelles en fait qu'on a lues là, c'est vrai que ça revient, moi c'est ce qui m'a quand même frappée, et j'avais l'impression qu'il parlait toujours un peu de lui quand même.
Les Dents d'Orléans, là, moi j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose...
Qui avait traduit...
Les Dents d'Orléans, moi, je vais pas poser la question, mais... Pour moi, c'est vraiment un souvenir d'enfance qui revient. Peut-être pas personnel, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, mais ou que c'est arrivé dans le village qu'on lui a raconté. Mais c'est quelque chose qui est très réel, parce que toutes les petites anecdotes, toutes les petites choses qu'il raconte, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose de plaqué sur l'histoire.
Peut-être aussi parce qu'il est conscient. Cette génération a eu une enfance tout à fait... Bon, peut-être on peut dire que toutes les époques sont spéciales, mais enfin, le Tibet était dans un drôle d'état à cette époque. Et c'était encore un Tibet, certes, meurtri, mais qui était encore hérité avec encore des vieilles personnes qui avaient connu le Tibet d'avant les années 50, où il n'y avait pas de télévision, par exemple. Donc la langue chinoise était quand même très, très peu diffusée à l'époque, alors que maintenant, les enfants s'abreuvent de télévision chinoise. Ce n'était pas du tout son cas à l'époque. Les zones où il vit, ce sont les zones, le Qinghai, la région autonome du Tibet, ce sont les zones qui ont eu le taux de couverture de télévision le plus lamentable pendant très très longtemps. Donc en fait, il y a quand même eu une sorte de conservatoire culturel là, et il est tout à fait conscient qu'il fait partie de cette dernière génération qui a eu finalement, malgré les soubresauts, malgré la révolution culturelle, etc., il a été dans un fond tibétain finalement, par certains côtés, assez peu affecté au quotidien. Il y avait des campagnes politiques, il y avait des séances de lutte, de critiques, etc. Mais il était avec ses grands-parents, il était avec ses parents. Tout le monde parlait tibétain à la maison, il n'était pas encore question d'aller faire des études dans une autre langue, enfin voilà. Donc, peut-être que l'enfance lui est chère, à ce titre-là, je ne sais pas.
Tous les enfants, toutes les nouvelles où apparaissent des enfants, ils sont vrais. L'histoire des huit moutons aussi, l'enfant, le petit Pat, avec ses moutons... quelque part, il y a quelque chose de réel dedans. On le voit, il est tellement réel, cet enfant, avec ses moutons.
Alors, une dernière question avant de se quitter. Juste pour terminer sur cette littérature, sur l'exercice de la traduction aussi, parce que c'est très important. Vous êtes toutes les deux traductrices. Je pense que vous passez des heures sur ces textes littéraires que vous découvrez avec toute leur subtilité. Et vous avez bien expliqué au public du Musée Guimet tout à l'heure qu'il y a une vraie différence entre, évidemment, le chinois et le tibétain, et que parfois, vous compreniez même de manière légère différente le but de l'écrivain, que ce soit dans que vous aviez en tout cas des discussions toutes les deux.
Des discussions
des points de vue différents en fonction d'une langue, en fait, conditionnée par une langue. Donc, comment vous avez travaillé ensemble, par exemple, sur ces.
Je sais pas si c'est la langue qui conditionne. Il y a un domaine culturel qui fait que on fonctionne peut-être de manière un petit peu différente, mais on finit par se retrouver quand même à mi-chemin entre les deux et à trouver un terrain commun.
C'est très simplement, je ne lis pas le chinois, Brigitte ne lit pas le tibétain, donc chacune nous avons traduit notre propre.
Et on a échangé les textes. On pouvait juger à travers la traduction. C'est vraiment une très mauvaise manière de juger un texte. Je le jugeais à travers la traduction, mais à partir des textes qu'on traduisait, je pense que on peut avoir une bonne idée de l'évolution de son écriture à travers le travail commun.
Son écriture bouge, ce qui est tout à fait normal, ça m'a ne serait-ce qu'au niveau linguistique, de la langue. Tibétain qui primait, maintenant c'est le chinois.
Et puis l'évolution thématique de ce qu'il écrit.
Et puis de la forme.
Tout évolue.
Le chinois lui permettant quand même, d'une certaine manière, sans être péjoratif sur la langue tibétaine, d'aborder plus de nuances dans son écriture. C'est ce que vous avez sous-entendu un petit peu tout à l'heure.
Le chinois sans des nuances. Mais Françoise l'a très très bien expliqué tout à l'heure en disant qu'il avait une langue qui avait des caractéristiques qui ne lui convenaient pas quand il voulait écrire des sujets qui étaient plus dans le domaine chinois. La langue ne correspondait plus et il ne pouvait pas la faire bouger, comme disait, on ne peut pas faire évoluer une langue rapidement, ça met beaucoup de temps.
Les Tibétains ont une très très haute idée de la littérature le style littéraire peut être assez précieux, traditionnellement. Et donc, arriver à dépouiller cette écriture tibétaine assez précieuse, assez ornée, avec je plaisante avec mes étudiants en disant c'est comme du Proust, tibétain, c'est des phrases qui n'en finissent pas, avec des relatives, dans la relative, et plus vous en mettez, plus vous êtes un écrivain accompli. Et donc je pense qu'il doit aussi prouver à ses pairs qu'il sait manier l'écriture, et donc il y va dans cette logique-là, et donc ça n'allège pas l'écriture. Et parfois, quand on veut parler d'un quotidien plutôt en Chine,
dans ces textes chinois, l'écriture est limpide. Mais vraiment, son chinois est limpide. C'est extrêmement, extrêmement beau. C'est presque dans le contexte de la littérature moderne, c'est presque une écriture de poésie ancienne. C'est-à-dire que il n'y a pas un caractère de trop. C'est extrêmement, extrêmement concis. Et il arrive avec ça à traduire des évolutions dans sa narration qui sont basées sur la psychologie de ses personnages. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement subtil. Et je connais peu de gens qui arrivent à le faire aussi bien. Il n'a pas besoin d'une narration en soi, il ne se passe pas grand-chose. Mais l'évolution psychologique de ses personnages est telle qu'elle entraîne la narration avec elle. C'est ce qui se passe dans les dernières nouvelles.
Et qui plus est pour le tibétain, je pense qu'il y a, il y a 6 millions de tibétains, la moitié savent lire et écrire, et donc on a évidemment, vous imaginez le nombre d'écrivains par rapport aux 1,4 milliards de Han, dont presque tous savent lire et écrire, et donc il y a un marché littéraire, c'est même pas un marché, c'est-à-dire une production littéraire qui fait que non seulement on écrit beaucoup en chinois, mais on traduit beaucoup de langues étrangères vers le chinois. Et donc quand on aime lire, quand on est tibétain, on est très frustré, parce que en fait, certes, les Tibétains sont ce que j'appelle des graphomanes, ils écrivent beaucoup,
Mais malgré tout, d'un point de vue d'un chiffre absolu, si vous voulez vous nourrir de textes, vous avez beaucoup plus de choses à vous mettre sous la dent et très 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 divers à travers le chinois. Donc évidemment, quand il va lire, je parlais d'Orhan Pamuk, il va lire Orhan Pamuk quand il a lu Beckett, bien sûr. Enfin bon, il a lu toute la littérature mondiale, il la lit en chinois, bien sûr. Donc forcément, ça peut. Moi, c'est pareil. Mais à c'est force d'écrire des articles en anglais de temps en temps, ben, c'est le mot anglais qui va sortir.
Ouais.
Et une démarche d'écrivain qui se nourrit d'une autre langue, c'est un peu schizophrénique. Et il est dans un monde sinophone et il lit beaucoup, je pense, de textes en chinois. Et forcément, ça influence.
Ça se voit qu'il écrit, parce qu'on voit l'évolution progressive, c'est l'évolution de la littérature aujourd'hui. C'est l'écriture de nouvelles, en nouvelles.
Alors, en tout cas, les Tibétains lisent, eux, en ce moment, 1984 de George Orwell.
Absolument.
C'est un best-seller. Absolument. Là-bas. Et nous, pendant ce temps, eh bien, on va lire Pema Tseden pour découvrir le Tibet. Et pour découvrir surtout cet auteur et ce cinéaste, c'est une bonne manière aussi de découvrir un auteur actuel, contemporain du Tibet d'aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise Robin et Brigitte Duzan de nous avoir fait plonger un peu au Tibet, dans cette littérature, dans cette culture très riche. Et puis évidemment, il faut inviter aussi les auditeurs à aller découvrir l'exposition Alexandra David-Nel, qui est à l'affiche en ce moment au Musée Guimet, pour faire encore un voyage un peu différent au Tibet avec elle. Merci à vous deux.
Un vieillard, à la chevelure et à la barbe d'une blancheur de conque, leur disait avec colère « Neige et neige sont les enfants des montagnes aux neiges éternelles. Ne faites pas preuve d'ingratitude envers eux. » Le berger Chopin et sa femme firent également un rêve. Le vieillard à la chevelure et à la barbe d'une blancheur de conque les rassurait en souriant. Neige et neige sont les enfants des montagnes aux neiges éternelles. Elles sont leur ultime demeure. Aussi est-il temps qu'ils y retournent. Je vous remercie tous deux de tout mon cœur. Et il disparut. Le lendemain matin, à l'aube, une foule agitée se forma, discutant du rêve étrange de la nuit. Le berger Chopin et sa femme, eux, étaient levés depuis longtemps. Debout dans le vent, ils regardaient les lointaines montagnes aux neiges éternelles, blanches et majestueuses. Ils savaient bien, tous deux, que neige et neige les avaient rejointes. Mais ils n'en concevaient nulle tristesse, puisque c'était leur ultime demeure. Immobiles, les gens se tenaient debout, aux côtés du berger, le regard fixé sur les lointaines montagnes aux neiges éternelles, blanches et majestueuses, comme s'ils avaient perdu quelque chose.
Kourgyan soit mort à 20 ans, et pas moi. Cela m'a laissé perplexe. Si l'on procède par soustraction, notre différence d'âge, dès lors, ne pouvait cesser de croître. Pour ce qui est d'Ourgyan, je sais que je ne peux pas utiliser le mot « mourir ». Mais au début, je n'arrivais pas à prononcer celui de Parinirvana. L'utiliser pour parler d'un camarade défunt avec lequel j'ai grandi me semblait inapproprié. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel est qu'Ourgyan n'est plus et qu'il ne reviendra pas. La dernière fois que je l'ai vu, nous nous sommes amusés comme des fous tout l'après-midi, puis nous sommes rentrés. Sur le chemin du retour, nous avons soudain aperçu un poisson qui frétillait sur un banc de sable. Sans même me demander comment ce poisson avait pu arriver là, j'ai proposé « Il est gros, ce poisson. Allons le vendre aux ouvriers qui construisent la route. Ils aiment ça. » Ourgyan s'est empressé d'aller le ramasser et m'a dit « Non, je vais le remettre à l'eau. » J'ai regardé l'animal qui s'agitait frénétiquement dans sa main et lui ai répliqué « Oh, c'est inutile. Le temps que tu arrives jusqu'au fleuve, il sera déjà mort, c'est trop tard. Rentre chez toi. Moi, je vais le remettre à l'eau. » Sur quoi il est parti en courant en tenant le poisson. J'ai hésité un instant, puis me suis mis à le suivre en courant aussi. En chemin, le poisson a cessé de bouger. Tant pis, il est mort. Ce n'est pas la peine de continuer. Ourguia ne m'a pas écouté et a poursuivi sa course en tenant toujours le poisson. Je n'avais d'autre choix que de le suivre. Arrivés au bord du fleuve jaune, nous étions tellement essoufflés que nous sommes restés un moment pliés en deux. Ourguiane a mis doucement le poisson dans l'eau, à un endroit où elle était peu profonde. Le poisson flottait à la surface. Il avait vraiment l'air mort. Ourguiane retenait son souffle en le regardant. Alors, le poisson s'est mis à bouger dans l'eau. Une fois, une autre fois, puis a nagé et a disparu dans les profondeurs du fleuve. Quand j'ai raconté ce souvenir, les gens m'ont dit que ce genre de personne était forcément différente du commun des mortels.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.